Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Sous.
On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Krolanta, votre podcast hebdomadaire autour de l'univers de Koh-Lanta. Avec moi aujourd'hui, Lucas et Louis. Salut les gars.
Wesh.
Yo.
Ça va bien? Ça se passe bien?
Ça va, ça va.
La famille, tout ça?
Petit week-end de Saint-Patrick, très chouette.
Ah oui, c'est...
J'ai pas regardé Koh-Lanta vendredi soir, du coup.
Ben aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode de cette 21e saison de Koh-Lanta. Ah, on va commencer tout de suite, et c'est moi qui vais ouvrir le bal aujourd'hui avec les chroniques. La minute. Qu'est-ce qui va me donner le chrono de la minute aujourd'hui?
C'est moi, je l'ai, je suis prêt. 3, 2, 1, go.
Après 4 jours d'aventure et l'élimination de Dylan, les bleus se montent doucement contre Yves. Les jaunes n'ont toujours pas mangé et chez les rouges, on n'arrête plus Yacine qui a même construit un escalier. Chaque équipe accueille un nouveau candidat à l'issue de l'épreuve de confort remportée par les rouges qui partent d'ailleurs avec le feu. Les rouges recueillent donc Sébastien, les jaunes Vincent et les bleus, perdants de l'épreuve, ramènent Rambo. Claire sur leur camp. Elle va d'ailleurs vite déchanter puisque Yves et Kelly se prennent de le chou et Claire, l'aventurière, déchante vite sur l'état de son équipe et de son camp. Elle part malgré tout explorer son île. Pour l'épreuve d'immunité, on retrouve un nouveau parcours du combattant ponctué d'agilité où ils doivent porter des trucs super lourds et superposer des trucs à la fin. Mais malgré tout, ce sont les jaunes perdent l'épreuve. Putain, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Non. Non, dans l'immunité, l'épreuve classique de Koh-Lanta, c'est celle où il y avait GG qui nageait sur la plage là.
Et c'est le stop. Stop.
Non, merde.
Stop.
C'est une catastrophe.
Le cafouillage est complet.
Oh non, c'est un accident dans ma fiche.
Non, j'ai tellement crié, j'ai saturé.
Bon bah c'est pas grave, hein, vous ne saurez pas la suite de l'épisode.
Eh bah voilà.
Il ne vous reste plus qu'à regarder une heure d'émission.
Oui c'est ça, t'étais vraiment juste au milieu.
Voilà, moitié.
Après la deuxième coupure pub du coup.
Oui c'est ça, qui
devrait être
30 minutes. Et du coup bah, je vous propose de passer au grand sujet du jour. Allez c'est parti, générique. Alors, aujourd'hui, le petit sommaire de l'émission, on va parler des nouveaux candidats, on va parler de la vie sur les camps, on va parler de la personne qui s'est fait éliminer, bien sûr, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a pensé de cet épisode, et on va commencer tout de suite avec la première épreuve, l'épreuve d'immunité.
Non, de confort.
Alors, en quoi consistait l'épreuve de confort ?
Alors, ils avaient donc ils devaient élire ce qu'ils appelaient un prisonnier, un par équipe, qui allait être un mec auquel allait être relié une charge de 70 kilos, je crois. Ce mec devait faire un parcours du combattant. Il se traînait sa charge de 70 kilos qui était en fait portée par le reste de son équipe, et donc du coup, ils devaient eux faire le parcours du combattant avec cette charge-là. À la fin, ils arrivaient à un endroit où le prisonnier pouvait toujours avancer, mais pas le reste de l'équipe avec la charge de 70 kilos. Le prisonnier devait utiliser une broche pour en fait empiler des boules et des supports. Il devait en empiler 5. Et vu que le support sur lequel il devait empiler ces trucs-là était trop loin, en fait, ses coéquipiers devaient porter la charge de 70 kilos à bout de bras pour lui donner du mou et lui permettre de porter tous ces trucs-là. Donc c'était ultra physique. On a vu des plans sueur, des plans j'ai mal au bras, des plans oulala, oulala. Mais ouais. C'était assez intense. Et donc du coup, la récompense était le feu et... un nouveau candidat.
Voilà, choisir son candidat en premier, en tout cas. C'était ça, surtout, la reward du premier. Le deuxième, si je me souviens bien, rien, mais le droit de choisir son candidat en deuxième. Et ouais. Le troisième, bah, il prenait le reste, quoi.
Tout à fait. Et du coup, ces nouveaux candidats, qui sont-ils? Eh bien, si vous êtes un grand fan de notre émission, ce qui est peu probable, vous avez écouté le premier épisode et on vous a un peu déjà parlé de ces profils. Ils sont arrivés dans un plan magnifique, en courant sur la plage. Tout le monde pensait que c'était le retour de Dylan, mais non. Il s'agissait bien de l'arrivée de Vincent, moniteur d'escalade. Je sais plus quel âge il a.
Sébastien,
moniteur d'escalade, Vincent Roux, qui était professionnel dans le top 14 de rugby français, et Claire, qui est, je sais plus, coach sportif, je crois.
Coach sportif, voilà, ouais.
C'est entraîné
à la survie,
ouais. Tout à fait. Les Rouges ont pu choisir leur nouveau membre, et ils ont choisi qui?
Parce que c'est les rouges qui ont gagné, du coup.
C'est les rouges qui ont gagné, ils ont choisi.
Avec brio, d'ailleurs. Ils ont choisi Sébastien, du coup, c'est ça
son nom. Sébastien, ouais, le moniteur d'escalade, ouais.
D'escalade, qui, et ben finalement, est un peu polyvalent. Lui, il est bon en tout. C'est un peu ça, c'est un peu ça, comme ça qu'il s'est vendu finalement. Et Sébastien, le polyvalent, Vincent, le très, c'est ça, hein, ouais, Vincent qui avait
tank.
beaucoup de muscles, voilà, le tank. Et puis Claire, qui jouait, qui était un peu la carte maligne, quoi, celle de la survie, qui est peut-être. Bon, d'ailleurs, par rapport au bleu aussi, elle est en avance physiquement, mais qui semblait pas être un tank comme les autres, mais qui en tout cas, effectivement...
Exactement. Et du coup, dans l'ordre, Sébastien est parti chez les rouges, Vincent chez les jaunes, et Claire chez les bleus.
Tout le monde était très content de son choix, d'ailleurs. Les bleus, ils ont dit que finalement, ils l'auraient prise, même si ils avaient été premiers à choisir. C'est facile de dire ça à la fin.
Alors, si eux étaient tous contents de leur choix, moi, j'ai envie de vous poser la question, qui est-ce que vous auriez choisi dans votre équipe?
Moi, il y a eu une réflexion des jaunes à un moment quand on leur demandait de choisir. Ils ont dit, non, c'était peut-être pas les jaunes, mais plutôt les rouges. Ils ont dit, le rugbyman, il va beaucoup manger.
Ouais.
Et je pense que du coup, moi, j'aurais choisi Sébastien aussi. Déjà par pur sexisme, hein, il faut le dire, hein, tu vois, en assumant comme tous les candidats de cette saison que les hommes sont meilleurs que les femmes, ce qui est à mon avis complètement stupide, mais.
On va quand même préciser que tu ne l'inventes pas. Hein, ça a été dit dans l'émission. Hein.
Ouais, ça a été dit plusieurs fois par Frédéric, et c'est vrai qu'il y a encore un peu de mal à pas faire cette différence, l'air de rien. Et après, il m'a rappelé finalement des anciens candidats, tu vois, il a le côté blond, tout fin, mais qui a l'air d'être, le mec qui peut se soutenir à un doigt, à une paroi. Il a l'air d'être, il m'a rappelé Grégoire ou les candidats comme ça, tu vois, donc je pense que, je sais pas, il a une bonne bouille, quoi.
Yacine a eu un bon, je pense, a eu un très très bon coup d'œil à son sujet, ouais. Un très bon commentaire, il a dit vraiment, c'est le gars, c'est la force tranquille, il parle pas, ouais. Il fait pas chier le monde, il fait le taf. Et je pense qu'il a été assez, assez juste là-dessus.
Ouais. Carrément.
Bah moi j'aurais pris le même mec, hein. Franchement, moi je l'ai vu, je me suis dit celui-là, c'est ça, en fait, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans la mêlée dans Koh-Lanta, faut surtout avoir de l'endurance. Je me suis dit le mec il sait grimper, mais c'est utile dans toutes les épreuves, il y a toujours des épreuves où il y a besoin de d'un peu grimper, quoi.
Même sur le camp, hein. On l'a vu là,
ouais,
il y avait besoin d'aller
grimper aux arbres, c'est vrai. C'était... je crois que dans les commentaires, j'ai mis OK, Sébastien, c'est un singe. Moi je me suis dit celui-là, c'est vrai qu'il a l'air de faire le taf et peut-être que j'ai eu tu vois le cliché un peu bête de me dire Vincent, ouais, c'est ça, il va falloir lui filer un mort à manger, et il va surtout savoir mettre des grosses droites et pas forcément savoir se porter au-dessus de ces trucs où faut sauter à 3 ou 4 mètres en s'accrochant, quoi.
Parler de quel point le magret de canard et le cassoulet lui manque.
Bah ouais, justement, moi c'est plutôt vers lui que je me serais tourné, je me serais porté vers lui, surtout pour les valeurs sportives, toi, dans une équipe qui manque un peu de capitaine et qui manque un peu de punch. Je me dis que le gars, voilà, il a été, c'est un sportif professionnel. Le rugby, c'est quand même assez dur. Tu vois, il y a moyen d'avoir quelqu'un qui motive réellement, et on l'a vu sur les preuves d'immunité. Voilà, qui se met en avant et qui essaye de porter un peu son équipe moralement.
Sur le teasing de la prochaine émission aussi, on le voit pousser. Pas une gueulante en soi, mais tu vois, ouais, voilà, motiver les mecs et leur dire, on lâche pas, on y va. Et je pense que ouais, les jaunes et les bleus, ils ont besoin de ça, parce qu'on a vu là en l'épreuve, les gars se plaignent, ah, c'est dur, nanana.
Et moi, je me serais du coup plus tourné vers lui, justement, pour ses valeurs sportives, la motivation, un meneur d'équipe. Mais aussi bah, parce qu'en général les mecs qui font du rugby tu vois le mec avait l'air assez ouvert tout ça donc je pense que sur le camp il fera pas chier son monde
quand tu vis en communauté à 14 c'est ça tu vis en communauté mais t'es obligé d'être sympa tu vois
c'est ça et du coup je pense que je me serais plutôt tourné vers lui. Bon bah c'était
mais du coup je sais pas ce que vous en pensez. Petit happening, non je rigole, non mais est-ce que vous trouvez pas du coup que chaque candidat finalement correspond très bien à son équipe? Entre Vincent qui va un peu structurer les jaunes, qui partent
pour combler les manques, ouais, je pense que.
Bah c'est ça. Les bleus se sont retrouvés avec Claire qui finalement, évidemment, il fallait qu'ils aient quelqu'un qui sache, mettre ses baskets dans l'eau pour les faire sécher, par exemple.
Les bleus, il leur faut les trois, tu vois.
Oui, c'est ça, mais.
Mais ça, on va faire la transition. C'est bien, ça nous fait la transition. La vie sur
du
le
coup,
camp.
Je trouve que ça correspond pas mal. Chaque profil finalement va réussir à apporter quand même quelque chose à son équipe, ce qui est pas forcément automatique, tu vois.
Et bah du coup t'en parlais, la vie sur le camp des bleus, tiens. Voilà, avec Claire, la nouvelle arrivante.
C'est une catastrophe, elle arrive, c'est une humanitaire en Syrie, quoi. C'est horrible, il y a rien, y a rien à dire. En parlant de Syrie, ouais, c'est ça, c'est la seule chose qu'ils savent faire, casser des arbres. Et puis après, c'est une catastrophe, hein. Donc il y a Yves qui s'accroche à tous les arbres qu'il peut en hurlant des insultes et en disant qu'il a 50 ans et qu'il n'est pas fatigué. Il y a Kelly qui s'énerve à chaque fois qu'il fait ça, donc ils s'énervent tous les deux tout le temps. Pendant ce temps-là, il y a Mathilde qui se met de l'eau sur la nuque en disant « Oh, c'est vraiment fatigant, j'ai mal dormi cette nuit. » comment il s'appelle ?
C'est Frédéric.
Frédéric. Alors là,
qui parle au caméraman et qui dit « J'essaie de m'interposer, mais j'ai peur. »
Mais tu vois bien, on peut rien faire, là. C'est horrible. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, c'est mes collègues.
Déteste.
Alors bon, voilà, mais qu'est-ce que tu veux
déteste.
Faire comme ça ? Voilà, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Et puis, bon, au milieu de tout ça, il y a Ada qui, si on lui dit un truc, elle se met à hurler, et voilà.
Et après, elle pleure.
Voilà, et après, elle pleure.
Bah, il y a Yves aussi qui a dit « Moi, je parle plus, je hurle maintenant. »
Ah oui, c'est ça. Oh, c'était vraiment incroyable, cette citation. C'est vraiment... Ah, je vais rester très courtois. Hein.
Mais je vais crier.
Très courtois, mais je vais crier.
C'est un malade, c'est un malade. Ouais. Vraiment...
Mais, bah ouais, c'est-à-dire que ça va de mal en pis, vraiment.
Je sais que...
Ah ouais, ça m'a saoulé. L'émission a encore tourné autour de Sticky Plat. Ouais, mais c'est honnêtement, ça. C'est que le deuxième épisode, et moi, ça me saoule.
Ouais.
On en a marre, ouais. C'est
vrai filles, que... A... Mais...
Ah, tu vois, pour moi, la vie sur le camp compte, à Koh-Lanta, ça ne se résume pas à... je crie sur mes coéquipiers et je vais faire des trucs dans mon coin. Et ça, franchement, ça commence à être chiant, quoi. Enfin, on va quand même vous préciser. Bon, ils ont construit une cabane. Elle s'est cassée la gueule parce qu'évidemment, bah, ils l'ont mal branlé. Vu qu'ils étaient pas d'accord sur comment on fait une cabane, donc ils étaient en dessous. Ça commence à se casser la gueule. Ada a failli se la prendre sur le coin de la tronche.
Ah non, et ça c'était même... après, parce que avant, en fait, c'était la nouvelle, parce que l'ancienne, en fait, il l'avait construite. Rappelons-le, sur la plage. Mais quand je vous dis sur la plage, c'est à 3 mètres de l'eau. Donc, et à marée basse. Donc, bah, quand il y a eu marée haute, ils se sont dit, donc, c'est bizarre, on a les pieds dans l'eau. Et là, ils ont entrepris de la déplacer. Et c'est là que s'est passé le grand clash qui a fait que Yves a décidé de ne pas construire la cabane par fierté. D'ailleurs, on n'a pas compris, ça
pas
a changé
pourquoi,
de plan, on est arrivé. Et d'un seul coup, il était en mode, de toute façon, j'en ai marre, je suis tout seul. Et il s'est fabriqué une cabane, enfin, commencé à se fabriquer une cabane, ouais, d'1m50 sur 1m50 pour vivre tout seul dedans, en autarcie, à 2m des autres, en les insultant.
Ouais. Non, c'est un malade mental en vrai.
Ouais,
il a un problème. Il est plus parano qu'un type. Il y a un drogué qui est vraiment parano, quoi. Le gars.
Ouais, c'est fou, ouais.
Première fois qu'il s'énerve de l'épisode, il s'énerve pour rien. Je sais plus pourquoi, mais on lui dit un truc, ça lui plaît pas. Il part secouer des arbres dans la forêt en hurlant comme un gamin, quoi.
Horrible comme un singe. On dirait des méthodes de gorille pour asseoir son territoire, quoi.
Non, mais c'était vraiment. Et ça, limite, bon, je veux dire, ok, le gars est fatigué, il s'énerve et tout ça, mais. La deuxième fois, ça m'a vraiment pas. Enfin, tu vois, je veux dire que le gars s'énerve, c'est une chose. Maintenant, la deuxième fois, là, genre, il joue juste pas le jeu de Koh-Lanta, tu vois. Enfin, à un moment, t'es en équipe. Là, le gars s'énerve et s'isole pour en rien. Si tu veux pas être là, abandonne, casse-toi. Enfin, moi, vraiment, genre, j'ai envoyé un message à Franck pendant l'émission, en disant, à un moment, je pense qu'il faudrait avoir, tu vois, des sur ce genre de comportement, tu vires le mec, tu vois. Peu
ouais,
importe,
c'est ça. Des règles éliminatoires dans Koh-Lanta. Ouais.
Exactement. Je veux dire, à un moment, tu vois, conseil de discipline, quoi. Tu vois, comme un gamin au lycée, tu vois, on lui fera un conseil de discipline et on le vire parce que c'est pas possible. Enfin,
je pense que
c'est un malade.
Ce genre de règles doivent exister, mais tu vois, en cas de mec qui commence à se frapper, c'est un peu le cas. Ça arrive assez souvent dans d'autres émissions, genre Secret Story, etc. Dès que les mecs se battent, hop, on exclut un des mecs. Le problème,
ouais, mais attends,
c'est que
quand t'as
là,
un mec,
en
là,
fait,
qui,
le mec
là,
bloque
gueule,
le jeu,
le gars
il
a la machette à la main, quoi. Le mec,
c'est ça.
Ouais, exactement.
Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ada, elle fait pas grand-chose. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si à la prochaine épreuve, le mec décide de pas la faire, par exemple? Bah, tu vois, ça crée juste un moment où, en fait, alors c'est rigolo à regarder 5 minutes, mais en fait, franchement, là, on est plutôt un peu, enfin, on
même
sait pas trop quoi en penser à la fin, franchement.
Même pas vraiment. Enfin, moi, je trouve pas vraiment ça rigolo.
Ça tape le moral, hein, franchement. C'est pas une bonne engueulade bien marrante, en plus.
Ouais, c'est pour ça que j'espérais que les Bleus perdent l'immunité pour qu'ils se fassent gérer.
Ah oui, vraiment,
ouais, c'est
faut,
ça,
faut qu'il dégage. Hein. Faut qu'il
mais
dégage,
surtout, ce qui est terrible, c'est que lui aussi, enfin, tu vois, il s'est mis dans une position où, de toute façon,
oui,
ça sera le prochain
façon,
éliminé, j'ai l'impression. Et du coup, ça perd évidemment de tout son sel, même si, alors on en parlait en off, dans le teasing de l'épisode prochain, on a quand même l'impression que les Bleus s'engueulent quand même entre eux, à part avec Yves, avec Ada qui dit à Mathilde, t'es qu'une manipulatrice. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe qui est tellement nulle que quand il y a une cible désignée qui est tellement détestable que c'est facile de l'éliminer, arrivent encore à se trouver des raisons mutuelles de se disputer les uns les autres au lieu de se souder finalement dans la haine d'un ennemi commun, tu vois. Et vraiment, je ne comprends pas les Bleus et je trouve ça dingue que une équipe qui a été formée et enfin par la prod et qui avait l'air finalement assez cohérente et finalement équilibrée parce qu'ils sont pas si nuls que ça en épreuve se retrouve à être tellement remplie de bras cassés sur le camp, quoi.
Moi, je pense qu'ils ont quand même un peu cerné le fait que ce soit des cassos et ils les ont mis ensemble. Je veux dire, il y avait quand même un combo entre Dylan, Yves. Bon. Kelly, moi ça va, mais c'est quand même une casse sociale, hein. Tu vois, je veux dire, la meuf,
oui.
C'est pas assez
que
gueuler. En hurlant,
c'est que
ouais,
gueuler. Si tu l'imagines en train de conduire, oh l'horreur.
Bah, t'as vu la gueule qu'elle tire sur son scooter, mon gars.
Ah mais oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah voilà.
Tu sais, on dirait la pionne, la pionne mal baisée de ton collège, tu vois. C'est une personne qui était un peu trop vieille pour être pionne, c'est pas pourquoi elle était pionne à 35 ans, et c'est elle, celle qui est dit. Non, c'est... Ada, bon, elle est pas méchante, mais elle est pas bien maligne, hein, franchement...
Ada, elle est bizarre. Moi, je trouve qu'elle tourne très vite, elle tourne vinaigre. Hein. Tu la laisses un peu trop longtemps au soleil et hop, elle commence à pourrir.
Et après, t'as Mathilde qui est pas méchante, mais bon, qui sert à rien. Et Fred qui est carrément, ouais, qui est fade comme l'eau douce qui.
Non, qui lisse trempe.
Ouais, voilà, exactement. C'était ça a été vraiment le seul moment d'ailleurs qui était super sympa. C'est le moment où ils ont trouvé de l'eau douce, où ils s'engueulaient pas, ça faisait du bien, tu vois. Enfin, c'était feel good.
Et c'était beau. On s'est dit que ça allait repartir, et puis finalement, ouais, c'est ça, le plan d'après, ils étaient en train de s'engueuler sans raison. Ça, c'était vraiment très
bizarre. C'est quand même vraiment de la faute de Yves, pour le coup. On verra comment ça va se passer une fois qu'il va dégager. Peut-être que ça ira mieux, quoi. Mais ouais.
Et du coup, je sais pas si on peut utiliser ça pour faire une petite transition sur les autres sujets dont on voulait parler. Enfin, je trouve que du coup, là, on a une fois, et il y en aura sûrement d'autres qu'on va évoquer plus tard, mais vraiment ressenti le problème de ces trois équipes.
Attends.
Dans le montage.
Ne crame pas les cartouches. Parlons d'abord des roues.
Il faut bien que je finisse ma phrase. Dans le montage qui fait qu'on saute du coq à l'âne et qu'on n'est pas toujours sûr de comprendre ce qui se passe entre les plans. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On peut passer aux rouges.
Les rouges. Bon, bah, les rouges, voilà, hein. Les rouges, ils roulent sur Koh-Lanta. Tout se passe bien. C'est bah, même un peu triste, cool, tu vois, parce qu'ils sont tranquilles, ils font leur truc, on les montre à peine.
Bah, c'est ça. Mais tout ce qu'on en voit, c'est super cool, tu vois, la séquence pêchage d'huîtres entre Franck qui bouffe des algues, Clem qui bouffe des huîtres.
Séquence incroyable, vraiment, l'image trop incroyable, drôle. Le mec n'a aucune race et se dit, je vais essayer de tout manger pour voir si qu'est-ce qui est comestible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à un moment, il se met à manger des algues.
Puis un beau paquet, quoi, il se le colle dans la tête.
C'est le mec, il aurait pu prévoir son coup, prendre un sac en cuir et le bouffer un soir, tu vois.
Voilà, on a Yacine qui aménage le camp. Le mec, il est en train de faire un jardin japonais avec le petit pont, la petite trempe.
Seb le nouveau
marches.
Qui grimpe aux arbres de manière impressionnante.
C'est ça. Bon, le mec, s'il trouve des cocos, ils vont aller chercher les cocos. Hein, il n'y a aucun souci. En même temps, le mec, il est moniteur d'escalade. Donc, si tu veux, heureusement qu'il s'est monté un truc, quoi.
Ouais, mais quand même, du coup, je trouve qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est ça, il y a une espèce de regroupement de talents qui fait que, eux, de toute façon, c'est-à-dire que même s'ils gagnaient pas les épreuves, ils seraient en avance, et toutes les épreuves qu'ils gagnent leur permettent d'être encore plus en avance.
C'est ça. Bon, après, il y a quand même des jeux chez eux qu'on voit pas du tout, des gens chez eux qu'on voit pas, genre Manuela, tu vois, Manuela, on la voit pas... Il y a trois plans sur elle dans les épreuves.
Mais ouais,
on a bah, belle performance à la première épreuve quand même.
Oui,
c'est elle par rapport à Kelly et Brahma qui pourtant bien on sûr. Peut pas reprocher à bien Brahma sûr. D'être détendu, mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle les a vraiment écrasés. Donc, mais effectivement, c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui se passe. On sait pas trop qui est allié avec qui là-dedans, qui s'aime ou qui s'aime pas. Un peu bizarre.
Je pense qu'ils se sont pas encore posé la question.
Hein. Ouais, comme ils ont pas eu de problème.
Ils ont tellement roulé sur le truc, ça se passe bien. Ils trouvent à manger. Sans faire beaucoup d'efforts en plus, ils trouvent à manger. Maintenant, ils ont le feu, ils ont une putain de cabane. Il y en a un qui déchire sur le camp pour aménager le truc comme un ouf. Franchement, c'est peut-être une des meilleures teams qu'on ait eu sur Koh-Lanta.
Ouais, et surtout comparé à leur nombre.
Oui, mais puis
vraiment, ils avancent à une vitesse
incroyable. Surtout l'équilibre camp, enfin survie épreuve quoi.
Qui sont les deux au top surtout.
Ils ont compris que les deux étaient liés et que, enfin, je veux dire, les autres qui n'ont pas mangé depuis 4 jours, évidemment, qui peuvent pas rivaliser avec des mecs qui bouffent, quoi. C'est absurde.
Donc, les bleus n'ont pas mangé et les jaunes ne mangent pas non plus. Parce qu'en fait, les jaunes, même s'ils s'en sortent bien sur les épreuves, c'est pareil, en fait, que les bleus, c'est une inactivité totale sur le camp. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre.
Moi, j'ai réalisé que j'ai même l'impression qu'on a quand même plus vu les bleus que les jaunes, alors que les jaunes étaient au conseil, et au final, on a vraiment vu que les bleus sur la deuxième partie de l'épisode, et un peu les jaunes à la fin, parce que bon, il y avait un mec qui allait sauter, quoi.
C'est aussi parce qu'ils font plein de bêtises, parce que par exemple, vous voyez, on disait ils ont rien mangé, finalement, les bleus ils ont mangé des oursins qu'ils ont trouvés parce que Claire est allée les pêcher le matin.
Ouais.
Pendant que tout le monde faisait rien, ils disaient, oh, je vais me recoucher. Et finalement, on a vu ça parce que, enfin, tu vois, si les autres avaient mangé leurs huîtres, on ne les aurait pas montré aussi longtemps, et juste parce que, ils ont décidé d'ouvrir les oursins sur le sol de la cabane. Enfin, c'est ahurissant. Et du coup, en fait, il s'est tellement des bras cassés que, je pense que la production, du coup, se dit que c'est plus intéressant de montrer ça que des mecs qui avancent normalement dans Koh-Lanta et qui vont en expédition, quoi.
Ouais, mais bon, enfin, tu vois, si je veux vraiment regarder, tu vois, c'est Koh-Lanta, c'est pas Mr. Bean, hein.
Ah, mais c'est ça, Je suis bien d'accord.
C'est un peu le manque, C'est un peu le manque de l'émission en ce moment, c'est le manque de survie, quoi. Toi, on en parlait durant le pilote de ouais, c'est cool d'avoir ce côté plus télé-réalité qui arrivait dans le jeu.
Ouais, ouais, carrément,
mais,
ouais.
Mais c'est là, franchement, deuxième épisode, moi je trouve ça déjà relou, quoi, parce que on me montre pas ce que j'ai envie de voir dans Koh-Lanta et ce que j'ai envie de voir, moi, c'est des mecs qui vont à la pêche, c'est des mecs qui vont choper un requin à main nue. C'est des mecs qui veulent buter des cochons sauvages et des chèvres avec une machette. Voilà, tu vois, c'est ces moments-là qui sont vraiment drôles et intéressants.
Même juste des moments de vie sympas, tu vois. Enfin, au final, le repas dans Koh-Lanta, c'est un truc qui est très souvent montré. Là, les mecs discutent d'un truc. On a vu que les bleus s'engueulaient, quoi. Et les bleus, quand ils sont cool, c'est cool à regarder, tu vois. Enfin, moi, ça me dérange pas de rentrer regarder des gens, enfin... voir des gens qui apprennent à se connaître de manière pacifique et pas en train de surler dessus, je trouve ça chouette. Mais ouais, c'est pas ce que j'ai envie de voir, en tout cas des mecs qui s'engueulent. Les épreuves sont chouettes, j'aime bien les épreuves. Maintenant, c'est vrai qu'entre les épreuves, pas assez de survie.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même eu du mieux au niveau des épreuves. Donc gageons que cette tendance va s'appliquer aussi à la survie. C'était plus agréable à regarder, ouais. On s'est pas trop fait chier.
Moi, il y a un truc dont je suis quand même impatient au niveau des épreuves, c'est... ils ont parlé du fait que le cône d'immunité était échangeable entre équipes. J'attends que ils créent des moments dans les épreuves pour exploiter ce truc-là, tu vois. Des trucs où on va permettre à deux gars de deux équipes différentes de parler pendant une épreuve sans être vus, ce genre de choses. Ça va être intéressant. Il faut qu'ils le fassent parce que sinon ça sert à rien, quoi.
Aussi. Pardon, pas d'immunité, mais d'effort. Tu vois, il pourrait y avoir premier, les deux premières équipes gagnent le choix d'aller sur une île ou je sais pas quoi. Ou les...
Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet. On donnera nos avis sur l'émission après, hein, parce que là, on est un peu de faire le ramdam de tout en même temps.
Ouais, on est...
Mais c'est l'élimination d'un candidat après, eh bien, l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'était une épreuve classique de Koh-Lanta, celle-là même où GG faisait du surplace. Rappelez-vous cette image absolument incroyable. Puisqu'il s'agit donc sur une plate, toutes les trois équipes sont sur une plateforme sur l'eau et doivent aller chercher successivement les uns après les autres c'était des raimentas qui sont répartis sur une corde qui va jusqu'à combien, 9 mètres de profondeur, quelque chose comme ça.
Je crois que c'est 6 mètres et il y a 9
c'est derrière, d'accord. Donc je crois voilà, que c'est ça, donc je récupérer les 9 raimentas et les premiers à avoir placé tous les objets sur une planche remportent l'épreuve.
Je peux me permettre un petit cours d'histoire sur cette épreuve. Je crois qu'ils l'ont faite. En fait, avant, il y avait une épreuve d'apnée où les mecs devaient rester le plus longtemps possible sous l'eau. Et il y a un type, en fait, qui est resté 2 minutes parce qu'il était champion d'apnée. Et en gros, il avait gagné, le dernier est parti à 40 secondes. Et il a dit, vas-y, je suis chaud, je reste 2 minutes. Et bah forcément, 2 jours après, il était à l'hôpital. Et du coup, depuis, je crois qu'ils ont remplacé cette épreuve d'apnée par un truc avec une corde dans lequel tu peux pas rester 3 minutes sous l'eau. Ouais. Si t'en as, voilà.
Victoire des Rouges.
Oui.
Ouais.
Encore.
Exactement.
Non défaite des Bleus.
Oui, c'est ça.
Je préfère le présenter comme ça parce que bon.
Bah, c'est exactement ça.
C'est tendu. C'était pas non plus la folie.
Mathilde, elle s'est donnée, en tout cas, elle s'est donnée. Il y en a qui se sont donnés dans l'épreuve, tu vois.
En même temps, effectivement. Nageuse, tu vois, heureusement, tu vois.
Non, mais en vrai, c'est surtout Maria, effectivement, qui a chié parce qu'elle a. En ratant son premier tour, finalement, elle les a mis en retard parce que elle a quand même plongé.
C'était le premier tour des jaunes et son premier tour à elle.
Elle a chié, mais pas qu'elle, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, les 10 secondes, elles étaient rattrapables. Le mec qui rentre à la brasse, c'est pas possible. Enfin, on est où, là?
Et puis, on avait Sabine,
mais,
dans la même équipe,
sauf que ça fait quand même,
de sa trajectoire.
Oui, c'est vrai.
Son équipe.
Et puis, elle comprenait rien.
En vrai, elle a perdu 2 secondes là-dessus, pas grand chose.
Elle a fait un bon détour, quand même.
Non, mais ce qui est bête, c'est que par exemple, chez les Rouges, justement, il y avait une autre personne qui pouvait pas plonger, c'était Franck, qui est vraiment l'expert de la mer. Il a eu raison de venir à Koh-Lanta parce que il est vraiment spécialiste. À part faire des bisous à des poissons, on sait pas trop ce qu'il sait faire quand il s'agit de faire des trucs en rapport avec la mer.
Bah, mais c'est son Franck.
Et donc, ouais, ça a montré sa raie. Bah, lui, justement, c'était ça. Et la 10e raie, c'était celle de Franck. Il en aura quand même ramené une. Mais du coup, ouais, lui, par exemple, comme il sentait qu'il allait pas réussir, ils lui ont dit, bon, t'arrives, tu touches la boîte, tu repars. Et effectivement, ça fait perdre moins de temps que Maria qui a essayé de plonger, qui a fait tout dans tous les sens. Enfin, on la voyait, c'était horrible. On avait l'impression que c'était un spectacle de Houdini où elle essayait de se libérer de ses chaînes sous l'eau, quoi. Et alors qu'en fait, elle nage. Et alors, j'ai dans mes notes, les requins aussi ont plusieurs rangées dedans et ça les empêche pas de nager. Mais
pas l'air bien maligne,
vraiment, ça allait pas. Là, ça allait pas. C'était le bazar. C'était le bazar chez les jaunes. Et du coup, effectivement, les bleus qui ont fait une performance honorable réussissent à s'en sortir.
Et ça nous mène, du coup, au conseil, où, très rapidement, bam bam bam, les votes, et Sabine se fait éliminer.
Ouais, incroyable.
Et là, incompréhension. Pourquoi?
Parce que, on sait pas. Après l'épreuve, on nous montre, donc on nous fait comprendre dans l'émission que ça va être soit Sabine, soit Maria, la boulangère de Marseille, qui vont sauter. Donc Sabine, parce que visiblement, elle est pas forcément pote avec tout le monde, et qu'elle a quand même, elle s'est quand même plantée sur la première épreuve de confort, et elle a fait perdre son équipe.
Violemment.
Et Maria, bah, elle s'est chiée sur la dernière épreuve d'immunité, et puis en plus, elle se sent pas bien. On nous montre Brahma qui voilà explique à Sabine, ouais t'inquiète, moi je suis chaud pour Tej Maria parce que c'est le point faible, toi tu te donnes sur le camp et sur les épreuves. On nous fait comprendre que voilà c'est du 3-3 et qu'il faut convaincre Sandro, et ça sera la pierre angulaire qui permettra ou pas de faire sauter soit Maria soit Sabine. On part sur le conseil, et là donc on a le moment classique où Denis pose 15 000 questions, il fout la merde, et au final on comprend à ce moment-là que apparemment Sabine n'est pas intégrée dans le groupe, mais c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'impression de voir dans le montage, donc je sais pas pour vous si vous l'avez vu.
Non,
on l'a pas vu du tout. Le seul moment où on a vu qu'il y avait un tant soit peu de tension entre Sabine et le reste
précédent.
Du groupe. Voilà, c'était au tout premier épisode, 5 minutes après être arrivé sur la plage de l'île des Jaunes, où les mecs disent on se rince les jambes, et puis j'ai l'impression qu'ils rigolent un peu, et elle fait la vieille chouette en disant « Dis donc, faudrait peut-être partir explorer pour trouver l'eau ». Voilà, c'est tout. Et vraiment, c'était même pas une tension, quoi. Ils ont dit « Oui, t'inquiète, on arrive ». Et voilà.
Non, il y a eu après, quand elle a fait perdre la première épreuve de confort, elle est allée s'isoler
tout seule.
Ah oui, c'est
vrai.
C'est le seul moment où on a dit « Ouais, voilà, elle est pas dans le groupe, quoi ». Sinon, à aucun moment, on nous a montré les problèmes. De toute façon, les Jaunes n'étaient pas dans la première émission. On l'a dit la dernière fois. Ils n'étaient pas dans cette émission. Et là, dans ce deuxième épisode, bah, pas tellement non plus. Et du coup, ce qu'on en a vu a mené à l'incompréhension de cette élimination. Moi, je voyais plutôt Maria sauter parce que ça me semblait plus logique vu que, bah, elle fout rien et elle est nulle dans l'eau. Et quand même Koh Lanta, c'est en général 60% des épreuves dans l'eau.
Voilà, apparemment, elle a une gastro, donc ça va être l'horreur, quoi. Enfin, c'est vraiment
c'est
pas possible.
Ah, le caca.
Bah ouais, c'est ça. Alors, elle a dit vomi, elle seulement, mais on a quand même eu des petits. Ouais, on a vu que ça allait être compliqué dans tous les sens.
Quand même, une gastro où tu n'as que du vomi, c'est pas mal, hein.
Ah, bah c'est.
Moi, j'ai
quand
rarement
pas
eu
en
une gastro où il y avait que du vomi, hein. Ouais, que du caca, que, oui, mais que du vomi, c'est possible.
Puis je te dis pas, la bile de quand t'as rien bouffé depuis 4 jours, elle doit faire bien mal à la gorge.
Ouais, ça doit brûler.
Et alors ouais, moi il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que ça nous a été présenté comme effectivement Sandro va être un peu l'aiguillage qui va faire pencher la balance. Et finalement, Sandro, il avait l'air de plutôt dire quand même, bon, Sabine, elle est quand même plus forte que Maria, nanana. La dernière fois qu'on l'a vu parler, on était vraiment en mode. Il se pose la question, mais c'est 70 Maria, 30 Sabine. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que quand ils sont arrivés au conseil, effectivement, Brahma, au moment de l'élimination, justement, quand tout le monde justifie un peu son vote et que tout le monde a dit, bah, Sabine, on en a marre qu'elle soit pas avec nous, ce que nous, on a découvert, Brahma, il a dit, malheureusement, je dois suivre la majorité. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu conciliation, ou je sais pas, conciliabule ou conseil sur les éliminations, avant le conseil, qui a... déterminer que ça serait Sabine, quoi, finalement. Je sais pas ce qui s'est passé pour que tout le monde se mette d'accord à la fin en disant, bon, c'est Sabine. Même Vincent qui l'adorait, par exemple.
Parce que du coup, ça faisait combien les vôtres? 2-4?
Ah non, non. Il y a eu que Sabine qui a voté pour Maria. C'était vraiment unanimité. Ah ouais, c'est
violent. Bah surtout, on peut noter qu'ils ont quand même une vision assez particulière de la démocratie et du vote, quoi. Si on faisait tout ça, autant élire un roi. Hein.
Bah, c'est ça, effectivement.
Stéphane
Bern, du coup, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est Sandro qui a tout décidé. Peut-être qu'il est pas dans son état normal avec l'espèce d'herpès qui lui pousse sur la tête, là. Je sais pas si vous avez vu ça, on peut faire une parenthèse, mais c'est quand même ahurissant. Enfin, il est en train de se
faire. Ça lui bouffe la lèvre.
C'est un, ouais, il bouffe la lèvre, en fait. Et puis le visage aussi, sur la joue, il en a un qui pousse.
Oh.
Miam.
Très, très bizarre.
Peut-être que ça sera la seule source de nourriture des Jaunes.
Il va pouvoir se râper l'herpès le matin.
Bon, du coup, ça nous amène à quand même un problème, qu'on évoquait. Bah c'est le problème des trois équipes, du coup. Est-ce que c'est pas ça le problème d'avoir trois équipes à montrer en combien, 1h30 d'émission?
Ouais, 1h50.
Non, il me semble que l'émission dure 1h30, hein, les gars.
C'est le replay, 1h55.
Le replay dure 1h50 sans les pubs.
Ouais. Ah ouais,
ouais, je t'assure. Et peut-être que d'ailleurs ça dure un peu plus longtemps à cause de cette troisième équipe. Mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème je sais pas si c'est un problème vraiment de montage ou de direction finalement. C'est, est-ce qu'ils ont pas assez de temps pour tout mettre, ou est-ce qu'ils décident vraiment que mettre des trucs qui sont juste les jaunes font un repas ensemble. Bon, alors les jaunes, c'est sûr qu'ils mangent pas beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire. La canne à sucre, par exemple, on les a vus les attraper, mais on a vu personne en manger. Ça s'est arrêté comme ça, ça saute du coq à l'âne dans tous les sens.
Oui, alors
ses
d'ailleurs, j'ai pas compris
avec
ce,
des animaux,
ce moment,
là, on
quoi.
Comprend rien.
Il y a Corentin qui dit « Oh, c'est bon, c'est sucré !» Et puis Vincent qui dit « Ah ouais, c'est bon, c'est sucré !» J'ai vu personne en bouffer, j'ai rien compris.
Non, bah ouais, et je trouve que c'est... Alors du coup, ouais, voilà, c'est ça, la question, c'est... Est-ce que c'est parce qu'il se passe pas grand-chose et qu'ils pensent que c'est moins intéressant que de voir des bleus qui se crient dessus, ce qui est probable, mais ouais. Du coup, on s'éloigne un peu de... Enfin, ouais, ça devient... ça devient un peu les anges à la plage, là, et c'est un peu chiant, quoi. Parce qu'en plus, ils n'ont pas non plus des personnalités archi intéressantes, quoi.
Non, clairement pas, effectivement.
Mais bon, ouais, ouais, épisode pas super, partagé. Et effectivement, le problème des trois équipes qui fait que, bah, moi, je, dans cet épisode, le premier, c'était rigolo, mais dans cet épisode, je ne trouve pas, ce que j'ai envie de voir dans Koh-Lanta, en fait.
Moi, je trouve que c'est des choses qu'on aimerait voir beaucoup plus loin dans l'aventure, tu vois. Le fait qu'on s'éloigne un peu de la survie et des repas parce qu'on est habitué à les voir tout le temps, après 10 épisodes, ça passe. Le fait que des mecs commencent à se disputer, enfin, je veux dire, les bleus, on dirait vraiment, je sais pas si on l'a déjà dit dans l'émission d'avant, je crois que oui. Moi, je trouve qu'on dirait des disputes de réunification, quoi. C'est des mecs qui surlent comme ça dessus et qui se détestent autant. Ça n'a rien à faire dans des épisodes, déjà, ça n'a pas arrivé, et ça, je trouve que, limite, ça, c'est pas forcément très intéressant de montrer ça maintenant, en fait. Parce qu'on comprend pas, quoi. Et ça,
non,
ça occulte tout le reste du jeu.
Complètement. Je suis assez d'accord. Moi, je serais pas aussi critique sur l'épisode dans le sens où je trouvais qu'il y avait quand même un. Je pense qu'ils ont réussi à avoir un bon rythme entre les épreuves et ce qui se passait ailleurs. Et peut-être que vu qu'ils ont pas de matériel en fait de survie, c'est peut-être pour ça que les épreuves, moi, je les trouve assez longues au final en termes de montage. Ouais. Mais moi, le vrai problème, c'est le Yves. En fait, j'ai envie de passer à travers mon écran et d'aller lui mettre une balayette laser parce qu'il est inné. C'est un malade mental, mais ouais, tu lui fais bouffer. Enfin,
il est dangereux.
Ouais, il est, je sais pas, il est fou. Enfin, je ne comprends pas ce mec. C'est fatigant, je veux dire. Et ce qui est dommage, c'est que ça fait un peu passer Kelly pour l'historique de service, mais en même temps, si personne lui dit rien au mec, c'est insupportable. Donc, voilà, moi, j'attends qu'il dégage.
Mais il voulait rendre ses enfants fiers et.
Ah bah putain, vache. Fou.
Moi, j'aurais un peu honte de voir mon père comme ça à la télé, quoi. Vraiment.
Oui, clairement.
C'est un gros ratage.
C'est clair.
Bah peut-être qu'au moins la DAS va saisir de ses enfants, tu vois, parce que qu'ils vont être sauvés, hein, parce que là.
Moi, j'ai trouvé mieux que le précédent quand même, et je pense que c'est grâce aux épreuves qui finalement étaient plus courtes, plus concises, plus claires, beaucoup mieux filmées surtout. J'ai trouvé qu'il y a des plans très marrants. Par exemple, il y avait pas mal de plans où on voyait deux équipes qui faisaient la même chose en même temps, deux équipes qui posent ensemble la petite boule, tout ça. J'ai trouvé que c'était assez sympa et ça, vous voyez, ça dynamisait le truc. Par rapport à souvent on a un peu l'impression que tout se passe en parallèle et que c'est remonté pour donner l'impression qu'il y a du suspense. Là, ça crée un vrai rythme et ça a l'air d'être la même chose dans l'épisode suivant où ils cassent, vous savez, ces jarres avec les battes là. On voyait qu'il y avait plusieurs plans où les mecs les cassaient en même temps et moi j'ai trouvé ça super.
Donc là, j'ai l'impression qu'ils se permettent des trucs en termes de réel, même dans le générique. On voit quelques plans où en fait, c'est vrai qu'avant j'avais l'impression que les plans en épreuve étaient beaucoup de plans fixes, et là ils se permettent plus de trucs avec la caméra fait un peu des travelling et tout, donc ça va être chouette à regarder ça.
Ouais, dans l'épisode suivant, effectivement, la caméra dans le sol par exemple, c'était super marrant. Enfin voilà, donc c'est pas dingue, hein, mais je trouve que du coup ça dynamise le truc, effectivement, parce qu'il y en a besoin vu qu'elles sont relativement longues. Voilà, donc espérons qu'il y aura moins d'engueulades pour le prochain, moi c'est vraiment, vraiment mon
souhait. Ouais, voilà. Plus de rouge, plus de survie, plus de choses comme ça, voilà.
Teaser de la semaine prochaine, on a vu encore plus de conflits avec les bleus, super. Mais on a vu Franck, voilà, Franck avec son petit matériel de pêche, il avait l'air heureux.
Ouais, la pêche c'est son truc quand même, faut le dire.
Ah bah la pêche c'est son truc.
J'espère qu'il va faire un bisou à ce poisson là quand même, parce que sinon il nous aura déçu de nous montrer ses qualités de rouleur de pelle de poisson dans sa présentation.
Si le roll map. Oh. Ah ouais, ouais, si vous savez pas ce que c'est qu'un roll mops, vous êtes pas sacré totalement.
j'ai rigolé de ces.
Ouais, on mettra un lien dans la description de ce que c'est un roll mops.
Alors normalement, quand on dit qu'on met un truc dans la description, ça veut dire qu'on ne le met pas. Il faut.
On oublie, on le fait pas. Pareil, quand on dit on va mettre la citation de tel mec, hop,
c'est
ça passe
place.
À la trappe.
C'était une règle.
Fallait regarder. Fallait vous en souvenir.
D'accord. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien de plus à rajouter, je vous propose de passer. À la chronique suivante. Et la chronique suivante, qu'est-ce que c'est ?
C'est le quiz.
C'est le quiz.
Eh, hey, on a deviné, donc on a déjà un point.
Alors, le quiz aujourd'hui présenté par...
William Sorin.
Lucas. Ah mais non.
Donc par William Sorin et par Louis aujourd'hui.
C'est vrai que
ah non, c'est Lucas qui fait le quiz aujourd'hui.
C'est Lucas.
C'est moi qui fais le quiz. Alors, c'est vrai que j'avais eu une petite idée pour ce quiz. J'ai voulu m'intéresser à qui fait Koh-Lanta. C'est quoi l'équipe? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai regardé le générique de Koh-Lanta. Et j'ai j'ai lu, qu'est-ce qu'il y a, combien de gens le font, quel métier, tout ce genre de choses. Donc ce que je vous propose, c'est, j'ai quand même appris certaines choses. Par exemple, Denis Brogniart est habillé en Marlboro Classic et Asics. Donc c'est un homme de goût, en partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous donner des catégories, enfin des jobs en fait qui sont listés dans le générique, et vous allez devoir me dire combien de personnes travaillent dans cette catégorie. Donc c'est un nombre entre 0 et plus infini. Vous n'avez pas le droit de me dire
le
nombre.
Pas le droit au pourcentage?
Non.
On n'a pas le droit de savoir non plus combien de gens travaillent dans l'équipe de Koh-Lanta en général. T'as pas le total?
Ah si, j'ai le total, c'est la première question.
Tu peux peut-être... Ah d'accord, bon, une fois qu'on aura le total, ça nous permettra de juger. Ok.
Donc c'est finalement la première question, combien de personnes? Alors, sachant que
désolé.
Ouais, j'ai exclu tous les gens de la société de prod ALP. En fait, le générique est coupé en deux parties. Il y a présentation de l'équipe, remerciements, et après la société de prod ALP. Du coup, c'est pas des gens qui travaillent sur Koh-Lanta, donc ces gens-là ne comptent pas dans le compte.
ALP, c'est donc, Adventure Live.
Dans nos cœurs non plus.
Ouais.
C'est les mecs qui font Survivor partout, c'est ça?
Ouais. Donc combien de personnes au générique de Koh-Lanta selon vous, les amis?
Moi, je dirais 70.
Oh, mais tu viens de me le sniper. J'allais dire 70. Oh, je suis dégoûté.
Alors, sachant qu'un compte est bon, vaut compte double.
Deux points. Ouais. Deux points, ouais, normal. Okay. Putain, si c'est 70, je suis dégoûté. Et ben moi, je dirais 83.
Vous êtes assez loin, puisqu'il y a 195 personnes listées dans le générique de Koh-Lanta.
Ouais.
Et oui, 195 personnes.
195.
Entre Adventure Line et TF1?
Non, sans Adventure Line, justement.
Ouais, non, juste les gens qui participent au tournage, en fait.
Ah
donc
ouais,
c'est juste les gens dans la première partie
titanesque.
Du... Ouais. Alors après, ça inclut aussi les gens qui travaillent, par exemple, sur le shoot des portraits, tu vois, c'est pas les mêmes mecs qui font les prises de
casting,
ça.
Etc.
Mais, ouais.
Même le montage, les VFX et tout. Ouais, enfin, quand même.
Alors, par exemple, combien de personnes sur le son de Koh-Lanta, pour vous?
Attends, un point pour moi, déjà, quand même, faut le dire.
Un point pour Louis, effectivement, un point pour Louis.
Sur
merci
le son.
Franck de m'avoir volé le 70.
Alors
le
attends, la catégorie s'appelle son.
Allez, moi je vais dire 6 personnes sur le son.
Ah ouais, moi je dis plutôt 30, parce que je pense que c'est important à la télé le son. Moi je dirais 30, 35 tiens même.
Allez, je vais dire 10 parce que je prends
le mec qui change après.
Je prends en compte les monteurs.
Alors Louis, t'es à combien? Donc Louis, t'es à combien?
35 moi.
Ok, donc c'est Franck qui est le plus près, puisqu'il y a 20 personnes sur le son à Koh-Lanta. Vu la manière dans laquelle c'était orienté en fait dans le générique, je pense que c'est vraiment juste les gens qui font de la prise de son et pas les mecs qui font du traitement de ton. C'est des perchistes, ouais, exactement. Donc il y a, pour vous dire, il y a 20 personnes sur le son et 19 personnes en prise d'image sur place.
Ah ouais, quand même. Putain, ça fait du monde, hein.
Ça fait beaucoup.
Alors, autre petite découverte, il y a des journalistes qui sont cités au générique de Koh-Lanta.
Ah ouais.
Combien sont-ils? Ah bah oui, ils sont écrits comme journalistes. C'est tout. Pas plus, pas moins.
Journaliste. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'arrive même pas à savoir, à imaginer quel est leur travail. Ouais, non, je sais pas. Journaliste, eh ben, je vais dire 10.
Ils sont cités en quoi? En remerciement?
Non, dans le staff.
Il y a une, d'accord.
Écrit journaliste, avec un S.
Journaliste. Moi, je vais dire 8.
Et c'est Franck qui est le plus près, puisqu'ils sont
sûr.
7.
7?
Ah là là.
Ça
y est, avoir un compte est bon.
2-1.
2-1,
pour Franck.
C'est ça.
Ouais, 2-1 pour Louis, je veux dire. Alors,
non,
ensuite,
c'est pour Franck.
Ah oui, c'est pour Franck, excusez-moi. Oh là là, c'est compliqué.
Ouais, c'est pour Franck, ouais.
2-1 pour Franck.
Grand France. Je devrais avoir un point juste pour m'être dénoncé en tant que perdant.
Ah non, ça marche pas comme ça. On ne récompense pas les balances chez moi.
C'est ça.
Ensuite, nous avons une équipe qui s'appelle équipe construction et décoration. Combien sont-ils d'après vous?
Alors eux, c'est ceux qui font le fameux moment du conseil. Parce que tout ça, c'est des bouts de carton incroyables.
Ouais, mais c'est aussi, à mon avis, toutes les épreuves. Ouais.
Oui, c'est vrai, les épreuves, j'avoue.
Le plateau final, genre de truc.
C'est vrai.
Ces gens-là, à mon avis, ils sont beaucoup. Moi, je vais dire 35.
Et ils sont 14. Donc,
lui, il est plus près. Donc, yes, on revient. Oh, pardon, j'ai claqué dans les mains, désolé pour vos oreilles.
C'est pas très grave. Égalisation à 2-2. Donc.
Ça fait du monde, hein, quand même, à chaque fois. C'est incroyable.
Et là, hein. Attention, je vous propose à ce qu'on passe à la dernière question. La question en or. Ouais. Combien y a-t-il de psychologues sur Koh-Lanta?
Oh, mais non, énorme.
Alors, a... avant ou après l'arrivée d'Yves?
Oh, je vais dire, ils sont
3 pour moi.
Combien, Franck? J'ai pas entendu
5
pour Franck.
Pour moi, 5.
Et c'est Louis qui est le plus proche. Ils sont deux psychologues à s'occuper du staff et des candidats de Koh-Lanta. Donc c'est Louis qui remporte à 3.
C'est quand même fou qu'il y en ait déjà.
Ouais. Alors moi j'y pensais quand on parlait tout à l'heure et je me disais, en fait, un mec fait une crise, qui arrive pour le calmer, quoi. Parce qu'effectivement, même si t'es la prod, hein, t'es content quand t'as ta caméra avec le mec qui te saute dessus à la machette, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a ça, je pense que pour plein de choses, pour la prod, pour toutes ces choses là effectivement, je pense que c'est nécessaire. Alors il y a quelques postes que je peux vous citer au hasard. Donc il y a un poste qui s'appelle coordination des candidats, qui embauche 5 personnes. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de je ne sais pas ce qu'ils font.
C'est casting.
Nous avons
parce que t'avais ou même sur le camp, hein, dire moi, que ça c'est eux qui mettent la bouteille dans l'eau.
Ce genre de choses peut-être, ouais, ou qui leur disent où aller, je ne sais pas. Et il y a aussi un responsable safety. Alors, ça nous rappelle les heures les plus sombres de Koh-Lanta.
Il a un costard et un brassard et il se tient debout toute la nuit sur la plage.
Prêt à faire un massage cardiaque.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'était mon petit quiz. Je trouvais que c'était intéressant. Finalement, j'ai énorme. En fait, c'est vrai qu'après ça, j'avais envie de tweeter. D'ailleurs, je le ferai peut-être. Tweeter Denis Brognard pour lui demander qu'est-ce que c'est la coordination des candidats, qu'est-ce que c'est telle chose ou telle chose. C'est très c'est vrai que compter, c'était pas super marrant, hein, les 195.
Ah ouais, bah oui, c'est vrai que t'as dû compter, du coup.
J'ai compté, en mettant sur pause, avec les bugs quand je revenais en arrière sur le replay qui m'a dit à reload de la page. Et génial.
Et ben, à Denis Brognard, on espère qu'il nous répondra et on pourra l'inviter dans le podcast comme ça.
Ah, ça serait génial.
Le rêve. On pleurerait tout le long, on n'arriverait plus à parler.
L'achievement de toute une vie.
Bah, ça c'est sûr, ouais.
Et ben, merci Lucas, c'était le quiz présenté
très bonne idée.
Lucas.
Et moi je voudrais remercier tous les gens qui font cette émission. Les locaux, parce qu'il y a, en fait, il y a aussi pas mal d'autochtones d'autochtones, c'est un peu con de dire ça. Bon, en même temps, on n'est pas loin de la colonisation, on débarque, leur pique leur île et on fout des mecs qui
on vole leur noix de coco et on leur tue leur chèvre.
Donc oui, merci à...
et Lucas.
On va passer maintenant au tweet de la semaine.
Alors moi j'en ai pas beaucoup, donc justement je voulais faire une petite technique de forme de rechercher pendant que vous en parlez. Mais non, du coup j'ai rien du tout, désolé.
J'y vais. Moi j'avais proposé un truc, c'est que quand celui qui ne prépare pas de tweet doit juste prendre le premier tweet qu'il trouve en last, même pas en top sur Twitter, tu vois, pour avoir un truc bien fourni du genre.
Et bah c'est parti alors, je fais charger. Ok, Germanota. Nous dit, putain, 22h40 et je suis grave fatigué, ER bien sûr, à croire que j'ai fait Koh-Lanta et j'ai pas dormi avec un S pendant 3 mois. Voilà, merci Germanota de nous tweeter ton état psychologique et physique régulièrement.
Allez, Jean-Pierre, sur Petit Pelot qui nous a dit, Yves la plus grande imposture de toute l'histoire de Koh-Lanta. Voilà, c'est juste parce que j'étais d'accord avec lui.
Ouais, c'est
je pense
vrai.
Que nous aussi
on valide.
On avait Je suis Pat Will qui nous dit, Yacine, il fait le rampe d'assez pour handicapés afin de respecter les normes d'accessibilité. Il est loin dans le game. Et le même Pat Wheeler qui nous dit, il nous fait une petite conversation de quelqu'un qui dit, Yacine, vous ne participez pas à cette épreuve. C'est bien sûr Denis qui lui dit ça. Et Yacine qui répond, bah de toute façon, faut que j'aille poser le placo dans la cabane.
C'est vrai qu'on a oublié de le mentionner, mais il a travaillé, il a été toujours, il a raté le tirage en prenant les deux fois la boule noire aux deux épreuves.
Il est vrai.
Ah, d'ailleurs, on pourrait parler de cet effet sonore au niveau de, je sais pas si vous avez entendu, lorsqu'il tire les boules, il rajoute un effet comme si on entendait les boules qui s'entrechoquaient dans le pot, c'est insupportable. Une horreur.
Un peu façon Motus.
Ouais, c'est horrible. Bah, je sais pas si on pourra vous mettre un extrait, mais ça donne vraiment,
oui,
ça donne envie de mourir et de le prendre à chaque fois. Ouais, horrible.
Tirage au sort, jaune. Celui ou celle qui tire la boule noire, malheureusement, ne sera que spectateur. Les rouges, comme pour les jaunes, celui ou celle qui tire la boule noire ne dispute pas le grand bleu.
Alors moi j'ai Columbine, oh bah, quel joli pseudo. Denis, il a dit qu'il va falloir oublier Dylan, mais comment tu peux oublier un gars qui se ramène à Koh-Lanta avec des mocassins Gucci? J'ai trouvé ça mignon. Et ensuite il y a Dark Vador officiel.
Ah, pas mal. Celui-là je l'ai récupéré aussi, il est très très bien.
Si ça se trouve, Koh-Lanta ça veut dire page de pub en cambodgien. Et c'est vrai que les souvenirs de la dernière saison de Koh-Lanta étaient...
27 minutes de pub je crois.
Ah ouais, ah ouais.
Ouais, ouais, il y a un mec qui a fait le calcul, 27 minutes de pub, je crois.
Ah ouais, c'est chaud, ouais. Donc c'est peut-être la... Alors en plus, on pique le concept à Survivor américain, et en plus, on leur pique la pub, quoi. Donc,
le rythme, ouais, en plus.
Alors après, il y a eu un truc assez... je n'ai pas exactement compris, c'est Alban, un ancien candidat de Koh-Lanta, qui nous fait son bilan, qui nous dit « L'idée des jokers est extra ». Je ne sais pas ce que c'est les jokers, donc je crois qu'on n'a pas regardé bien l'épisode.
Et je pense que les jokers, c'est les mecs qui se ramènent, justement. C'est ça qu'ils appellent les jokers.
Il nous dit, Yacine va devenir ministre du logement, et les bleus, c'est du gâchis. Avec un emoji bleu. Et un pouce vers le bas. Donc vraiment, il pose ses couilles sur la table, quoi. Il le dit,
ah, ça, c'est...
En même temps, c'est la vérité, c'est une catastrophe. Ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est désagréable à regarder. C'est-à-dire que c'est même pas juste rigolo parce qu'ils sont nuls, là. C'est devenu chiant.
On a, le Rémi, qui dit, j'annonce, là c'est sur les bleus, ça change. Dans 10 jours, la cabane des bleus est montée. Dans 15 jours, ils parviennent à faire le feu. 16e jour, la cabane brûle.
Ah ouais. Oh, ça serait trop bien. Et ils se réfugient dans les pics d'oursins qui sont fait tomber partout.
Est-ce qu'on est bon pour les tweets?
Bah ouais, je pense, on a fait le tour.
On est bon pour les tweets, effectivement.
C'est l'heure
du duel. Non, c'est l'heure
du conseil.
Pour le jeu à boire.
C'est Papy Mougeau de Casa.
Petit résumé du jeu à boire de la semaine dernière.
Oui.
On vous avait dit cul sec lorsque un bleu pleure. Eh bien, ça n'a pas manqué puisque... Alors, Louis a compté 4, je crois, 4 ou 5.
Non,
fois.
J'ai compté 5, j'avais oublié de dire une ligne. J'ai compté 5, mais on n'a pas compté les mêmes 5.
Moi, j'ai compté
6
fois parce que... Bah, j'avais compté 5. Allez, on va dire qu'on a compté 5. Donc, normalement, vous avez fait 5 cul sec. Et cette semaine, Lucas nous propose...
Alors, je vous propose un nouveau jeu à boire qui est à chaque fois que Yves va montrer une nouvelle facette de sa personnalité, en tout cas pas une nouvelle, mais une différente, s'il passe Yves pas content, Yves content, Yves qui gueule, Yves qui pleure, vous buvez un coup.
Et donc, bah, vous ne verrez jamais le conseil, c'est pas grave, vous pourrez rattraper le lendemain. On
ça va être interminable, on n'aura pas le temps de verser un verre.
Ça vous permettra d'oublier à quel point Yves est un scumbag. J'ai un autre point que je voulais faire. Je sais pas si vous vous souvenez, au pilote, j'avais exposé la théorie comme quoi on voit toujours le portrait du candidat qui se fait éliminer.
Oui.
Ça n'a pas été vrai à cet épisode. On n'a pas vu le portrait de Sabine.
C'est vrai, tiens. C'est vrai.
Je suis très
Alors,
déçu.
On a vu celui de Maria, je crois, non?
Non, on n'a vu aucun portrait en fait pendant cette émission.
Vrai,
on a vu les 3 portraits des nouveaux candidats et c'est tout. Donc voilà, à vérifier dans les épisodes à venir, mais peut-être que Denis m'a entendu et qu'il a fait modifier le montage.
Allez, le conseil.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Alors cette semaine, quel est votre coup de gueule? Contre qui vous voulez voter pour éliminer?
Eh ben moi, je n'ai rien trouvé... Alors il y a vraiment plein de choses révoltantes qui se passent en France, hein, tout va bien, mais mais je vais voter contre Yves parce que il m'a saoulé et vraiment j'espère qu'il va dégager. Donc Yves, c'est mon conseil.
Alors moi j'ai encore rien à dénoncer et du coup je vais voter contre le fait de n'avoir rien à dénoncer au conseil de la fin de ce podcast. Non mais ce que je propose de faire pour les prochaines émissions, c'est que si on n'a pas de coup de gueule à faire, on peut faire une reco.
Un truc gentil.
Et on recommande un truc.
Bah fais une reco
alors. Alors, je vais faire une reco. Et ben, en ce moment, je regarde des films japonais, les films japonais de Toshiaki Toyoda. Et c'est très sympa,
le
c'est
fameux.
Plein de mélancolie. Qu'est-ce qu'il y a?
Le fameux.
Le fameux, voilà. Non, mais apparemment, les films sont assez cultes au Japon. Et du coup, c'est plein de films sur la mélancolie, teintés évidemment de beaucoup de violence. C'est pour ça que j'aime bien. C'est des rythmes assez marrants. La moitié de l'histoire est souvent un peu induite. Et du coup c'est très marrant et du coup je vous conseille dans l'ordre Blue Spring puis Pornostar et si vous voulez Nine Souls qui est finalement le plus abouti, mais pas forcément le plus jouissif. Voilà.
Alors, pour ma part, je voudrais pousser... Je voudrais voter contre le monteur. En fait, je sais même pas si c'est le monteur de l'émission. Je pense que c'est carrément le mec qui diffuse, qui a les manettes pour diffuser l'émission à TF1, qui fait ça à la fin de l'épisode de Koh-Lanta. Et c'est comme ça depuis plusieurs saisons. C'est quand à la fin, après le conseil, il y a le générique qui passe et il y a le mec qui s'est fait éliminer, qui est en train de parler. Eh ben, on affiche un bandeau en bas. Et
ah
plutôt
oui,
que de d'afficher le bandeau par-dessus, comme le ferait n'importe quelle personne sensée qui
dire.
Fait du montage audiovisuel, eh bien non, il resize.
Ah oui,
il,
c'est vrai,
il,
ça déforme.
Il change, il déforme l'image. Il déforme l'image pour afficher le bandeau qu'il ne met pas par-dessus, mais bien en dessous de
horrible,
l'image actuelle. Ce qui déforme l'image bah, en deux fois, puisqu'il s'affiche et il disparaît. Donc il y a une animation de déformation de la vidéo qui est absolument bah, abominable. Hein, c'est
oui,
pas
c'est
acceptable.
Horrible.
Je veux dire, c'est une horreur. Ça me fait mal
mais
au cœur à chaque fois que je vois ça. Et vraiment, il fallait que j'en parle parce que ça me reste sur le cœur à chaque fois, à chaque fin d'émission. Je trouve ça inacceptable. Vraiment, c'est...
Imaginez quand même que vous venez vous faire éliminer de l'émission. Là, vous savez pas pourquoi, quoi. Et Sabine, elle est rentrée, elle s'est dit, bon, bah, ils m'ont éliminé quand même. Bon, c'était un peu bizarre et tout. J'ai pas trop compris, tout s'est fait d'un coup. Elle fait son petit message. Là, devant la télé, elle se rend compte que tout le monde a voté pour ça et que vraiment, elle est le dindon de la farce. Et quand elle voit sa tête en train de dire, bah, je suis un peu amère, elle se retrouve écrasée. Vraiment, on aurait dit E.T. T'as raison d'en parler, parce que c'est horrible.
Avec le bon scale, c'était pas déjà beau à voir, mais alors...
Voilà, c'est ouais. Ça. Vas-y, ouais. C'est-à-dire que plus ça va, plus le nez store, quoi, sur le côté. On sent les réminiscences de la boxe, quoi. Très bon coup de gueule, je valide.
Eh ben, merci messieurs.
Merci à toi, merci à vous tous de nous écouter.
Merci à vous de nous écouter. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Koh-Lanta
le podcast.
On est sur SoundCloud, on est sur PodCloud.
N'hésitez pas à commenter.
Un jour
n'hésitez
peut-être.
Pas.
N'hésitez pas à commenter. Il a raison.
Dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on a eu quelques retours, mais toujours un peu en privé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'on peut améliorer, ce qui est bien, et parler du podcast autour de vous. En vrai, hein. Parce que nous, on commence à être assez fiers de ce qu'on fait, je crois.
Et
bientôt,
écoutez,
on aura un Patreon.
Bah, on se
oui,
fait des bisous,
bientôt,
je crois, non
bientôt, oui,
on se fait des gros bisous.
Milliards oui. De thunes. Et la semaine prochaine, Denis Brognard sera avec nous.
Bonsoir à tous.
Oui, on en est sûr.
On en est sûr. À la semaine prochaine. Bon prochain épisode de Koh-Lanta. Ne buvez pas trop. Ça dépendra des bleus, Denis. Allez, salut.
Des bisous.
Salut à tous. Sous.